Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI. Et comme chaque semaine, vous en avez l'habitude en son et en images. Et nos invités, ils sont autour de moi et je vous les présente évidemment tout de suite. Bonjour Rémi Ngono.
Bonjour Annie. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Salut à tous les auditeurs.
Et aux auditrices, j'espère.
Et
aussi.
Aux auditrices. Oh là là,
c'est très attendu, hein, le Café des Sports l'autre jour, sur une radio de Bangui, on en a parlé. Bonjour Marc Libra.
Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs,
merci.
Auditrices et supporters de l'OM, je vous aime. Déclaration, ça démarre bien.
Bonjour le préfet Alejandro Valente.
Bonjour, bonjour à tout le monde et bonjour même à Rémi qui a dit bonjour au monde entier sauf à nous.
Non mais Rémi il dit un bonjour générique et ça passe bien. Le préfet il est déjà sur son téléphone mais parce qu'il c'est pas qu'il se comporte mal, c'est qu'il suit en fait toutes vos réactions et tous vos commentaires et vous le voyez en général le carton attribué est celui que vous lui avez envoyé durant l'émission. Alors, les débats du jour tourneront autour d'abord de ce nouveau trophée pour le Bayern Munich. La Super Coupe d'Europe remportée par les Bavarois. Forme-t-il la meilleure équipe du monde d'ailleurs, ces joueurs du Bayern? Même si, évidemment, hier, on les a quand même vus un peu avoir du mal à se défaire du FC Séville, au buteur bien malheureux hein, face à ce grand Manuel Neuer. Les Andalous sont-ils sous-cotés d'ailleurs dans l'ombre éternelle des deux grands ou trois grands d'Espagne? Eh bien, nous en parlerons. Nous parlerons aussi de Lionel Messi, toujours très en colère. La Pulga de Barcelone a relancé les hostilités avec un violent message contre sa direction à l'occasion des adieux de son ami Luis Suarez, parti hier. Comment Ronald Koeman, le nouvel entraîneur, va-t-il gérer la star et le vestiaire à l'heure où le Barça revient sur la pelouse ? Luis Enrique, le jeune attaquant brésilien, nouvelle recrue de l'OM, fera-t-il donc des miracles au pied de la bonne mère? Mais à quel poste dans cette équipe marseillaise qui doit se relancer? Reste-t-il d'ailleurs des bonnes affaires sur le marché qui se terminera le 5 octobre prochain? Eh bien, nous en parlerons dans l'émission. Juste avant, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Abraham, homme intègre et auditeur de l'émission. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Ocampos face à Manuel Neuer. Le duel entre l'Argentin et l'Allemand. Ocampos, le contre-pied parfait, c'est 1-0 pour Séville. Thomas Müller, extérieur du pied droit de Thomas Müller avec Lewandowski. Et le but de Goretzka. Le tir, Ravi Martinez. Et le but le but de Ravi Martinez, quelle histoire.
It is Bayern Munich who have added the UEFA Super Cup to their win in the UEFA Champions League.
Et voilà, nous voilà dans l'ambiance de la Bavière avec cette super coupe d'Europe et le quatrième trophée glané en cette étrange année 2020. Alors glané par le Bayern et soulevé hier soir par le capitaine tout sourire bien sûr qu'était Manuel Neuer. Quelle année fantastique pour les Rouges et Blancs de Munich après leur bouclier en Bundesliga, après la coupe d'Allemagne, après la coupe aux grandes oreilles, eh bien, ils ont remporté le Bayern Munich hier soir à Budapest, la Coupe des Coupes d'Europe, on peut dire, face au coriace vainqueur de la Ligue Europa, le FC Séville, grâce surtout au buteur Javi Martinez.
Je veux juste fêter la victoire avec toute l'équipe. Je donne toujours tout quand je suis sur le terrain. C'était un rêve et nous sommes contents de ce titre. J'avais déjà marqué lors de notre victoire en 2013. Notre prochaine rencontre, c'est dimanche à Hoffenheim. Si je suis encore là, je donnerai tout, aussi longtemps que je jouerai au Bayern.
Score final, 2-1 avec les prolongations. Le Bayern qui aligne les records. Il vient de devancer le Real Madrid en enchaînant 23 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et il faut noter que sur les 32 derniers matchs, eh bien, le Bayern en a remporté 31, invaincu depuis le 7 décembre dernier. Marc Libra, on l'admire, cette équipe d'Allemagne, on l'a vu notamment pendant la Ligue des Champions,
d'Allemagne. Cette équipe allemande. Ouais.
C'est des fois on la confond hein, avec effectivement la National Mannschaft. Est-ce que c'est la meilleure d'Europe et la meilleure du monde même en ce moment, cette équipe du Bayern Munich?
Je crois que c'est difficile de faire mieux dans le monde actuellement, quand on voit le gardien de but qui a encore été une fois extraordinaire hier soir, comme rappelez-vous face à Paris où Neymar a cette occasion, Mbappé pour une occasion, Neymar est là pour faire front. Et après, ils ont cet attaquant qui, pour moi, mérite d'être Lewandowski, qui est stratosphérique quand on met plus de 50 buts la saison passée. Alors, on n'en parle pas beaucoup.
Hein.
Ouais, enfin, il a dépassé les 50 buts. C'est, ouais, c'est assez très impressionnant. Puis chaque année, il y a toujours Messi, Ronaldo qui est devant lui, mais il joue entre 30 et 40, 45 buts. Donc, c'est une équipe complète et qui mérite vraiment tout ce qu'elle a. On a souvent l'impression que, bah, ils sont pas très bien, ça va pas le faire, et puis, ouais, ils ont du mal à démarrer, puis on se rend compte qu'ils montent en puissance, et c'est un peu comme le match de Paris, on se dit non, mais on sait pas ce qui va se passer, puis, les prolongations arrivent, on se dit, mais de toute façon, les chances, on sait qu'ils vont gagner. On sait que ça va passer. Et puis, s'il y a une petite faiblesse, Alaba peut faire une erreur comme hier, et puis, hop, boum, Neuer, il vous rappelle que, attendez les amis, je suis là, et vous pouvez pas marquer. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vrai que ils sont très impressionnants et pour moi c'est une des meilleures équipes au monde actuellement.
Alejandro, en plus, c'était une équipe qui n'était pas tout à fait la même que celle de la finale ou de la phase finale de la Ligue des Champions, et notamment c'était sans Thiago Alcântara.
Sans Thiago Alcântara, sans Coutinho, mais bon, on sait que le Bayern a quand même un effectif conséquent. Oui. Cela dit, hier soir, on peut pas contester la victoire du Bayern, mais elle s'est jouée à quelques détails. Si El-Nesyri avait eu un peu plus d'adresse devant Manuel Neuer, le résultat aurait pu être tout à fait inverse. Et donc, voilà, c'est un peu là qu'il y a l'amertume côté sévillane, parce que on donnait les matchs gagnés d'avance au Bayern, et finalement, il y a eu match. Et il aurait pu y avoir une surprise et ça n'a pas passé très loin.
Oui, mais alors pour vous, c'est pas la meilleure équipe d'Europe ou la meilleure équipe du moment et du monde?
Forcément, mais je veux dire, c'est pas une équipe invincible. Pour moi, c'est une équipe qui aujourd'hui connaît une très bonne série, qui a su profiter au mieux.
Elle ne perd pas depuis le 7 décembre dernier.
Mais qui a su tirer les meilleurs profits. L'Allemagne a bien géré quand même cette crise du Covid et les calendriers allemands visiblement étaient aussi parfaitement adaptés à la situation. Alors que Séville, par exemple, jouait hier soir son premier match depuis la finale de la Ligue Europa. Il sortait des vacances. C'était pas forcément sur un pied d'égalité, on va dire.
Rémi,
je vois quand même que elle refait une moue que moi je ne comprends pas. Parce que quand une équipe joue comme celle du Bayern, je ne vois pas. Bien évidemment, on devrait dire qu'il doit avoir match.
Vous êtes admiratif?
C'était une finale, mais moi, une équipe du Bayern, vous regardez quand même les statistiques. C'est 25 tirs au but. 25 tirs. C'est une possession quand même de 65%. C'est-à-dire, ils ont concédé 7 tirs, même si Neuer arrête quand même 5. Mais quand même, ils ont tiré 25 fois. Ils ont eu 10 corners. Ils ont réussi, enfin, ils ont eu 791 passes. Donc, 85% de réussite.
C'est l'aboutissement d'un travail de tous ces derniers mois, ça, Rémi. C'est pour ça qu'on en arrive à se demander si c'est la meilleure du moment.
C'est la meilleure de tout le monde. Parce que elle, il faut savoir que c'est une équipe qui était dans le coma. Quand Hans Flick arrive, il faut se dire qu'il n'a que 35 matchs. Et sur les 35 matchs, vous regardez la série. Mais il faut quand même dire qu'avant cette série, il y a eu 2 défaites. Et il a su réorganiser ce Bayern-là pour qu'il devienne une machine de guerre. Aujourd'hui, lorsque vous voyez donc pratiquement, il n'a plus perdu. Et que surtout, il gagne le trophée sur une statistique hallucinante. C'est-à-dire, il gagne un trophée tous les 9 matchs et demi. C'est lorsqu'on regarde ça, moi, il y a un proverbe africain qui dit « On juge l'épi de maïs par les graines ». Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que lorsque le Bayern produit un bon football, récolte des trophées, que non, elle n'est pas, c'est pas ceci et cela, non, comme Alessandro veut le dire. Non, bien au contraire, ce Bayern pouvait déjà être un peu, on peut même dire que, pouvait se dire que bon, voilà, on vient de gagner la Ligue des Champions, c'était la priorité des priorités, on vient de faire un triplé historique, le quadruplé n'était pas là, mais ils ont réussi à le faire et surtout, arracher, comme vous avez souligné, ce qu'on appelle le record de Ancelotti avec le Real Madrid en 2014.
Ouais, qui était de 22 victoires consécutives pour le Real et désormais 23. Le prix du meilleur joueur européen de la saison. Vous dites qu'on parle pas de Lewandowski, nous on en a beaucoup parlé cette semaine parce que justement en plus il y est sur cette liste avec De Bruyne et Neuer. Mais peut-être, alors Alejandro, vous allez nous éclairer avant que je pose la question à Marc, mais le prix du meilleur joueur UEFA, puisque cette année on va se contenter de prix annexes puisqu'il n'y aura pas de ballon d'or, est-ce que le vote est déjà terminé ?
Oui, mais il faut savoir déjà que c'est un prix qui est pas forcément d'une lecture très simple, parce qu'il y a deux prix UEFA, il y a un prix qui est étiqueté Ligue des Champions et un prix qui est étiqueté Ligue Europa. Et donc, par exemple, des joueurs comme Kluivert ou Bruno Fernandes, par exemple, ne participent pas au prix Ligue des Champions. Ils sont en finale du prix
dans une autre catégorie. Oui, oui.
Donc, voilà, c'est un prix qui évolue avec le temps. Il y aura un prix du président de l'UEFA également. Il y aura un prix féminin, etc. Ouais. Bon,
non, mais pour ce qui est du meilleur joueur.
Qui est pris ces prix-là. Au départ, l'UEFA avait créé ces prix un peu sur le modèle du Ballon d'Or. Donc, c'était un collège des journalistes qui élisait les vainqueurs. Et depuis 2 ou 3 ans, ils ont ajouté un deuxième collège qui est formé des 32 entraîneurs qui ont pris part à la Ligue des Champions. Et donc, voilà, tout ça requiert quand même une organisation qui est assez lourde. Et ça a permis donc... à l'UEFA quand même d'exister et de donner une existence beaucoup plus importante cette année à ces prix, puisque ce sera le seul qui sera décerné parmi les grands prix en 2020.
Mais là, on a déjà voté. Tout le monde a déjà s'est exprimé. On a eu la liste des trois finalistes.
Voilà, on a la liste des trois finalistes, mais c'est déjà... On connaît mais normalement, c'est déjà fini, oui.
C'est déjà fini. Marc, on dit que Lewandowski, justement, avec ses 55 buts, est très largement en tête, mais... Est-ce que après le match d'hier et après finalement la finale aussi de la Ligue des Champions, vous le donneriez pas à Neuer, vous?
Moi, je donnerais l'attaquant. Donc après, Neuer a fait. Non, mais Neuer.
Entre attaquants.
Non, mais Neuer, ça fait plusieurs années qu'il est toujours présent.
Mais oui, en 2014, il le méritait en tant que.
Oui, après, si on se réfère
champion du monde.
L'année de Kovac, la saison passée, on s'inquiétait pour lui. Oui, c'est vieillissant, il a du mal. Enfin, c'est des gardiens, enfin un gardien qui a su rebondir, se remettre en question, même avec la Mannschaft et tout.
Et il a été très blessé, surtout.
Il a été blessé aussi, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'est capable de faire encore une fois Lewandowski, c'est pour moi. C'est énorme. Donc, quand on arrive à marquer plus de 50 buts sur une saison, ça porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Donc,
Rémi, voilà. vous le donneriez à Lewandowski ou à Neuer? Je parle même pas de De Bruyne, mais.
Honnêtement, non, pas De Bruyne.
Non.
Moi, j'aurais pu peut-être le donner à Neuer. Neuer.
Il vous épate, j'imagine, parce qu'un jour, vous nous aviez dit dans la radio, dans le Café des Sports qu'il était fini, Neuer. Là, il n'est pas trop fini.
Non.
Si.
Non, attendez.
Si, vous l'avez dit, attendez, on l'archive.
Vous rappelez-vous que j'ai dit justement que Neuer, qui était contesté à une certaine époque par Xavier Barret, qui disait qu'il faudrait que ce soit le gardien du Barça, j'ai dit, il pourrait bien rebondir, mais bien évidemment, j'ai quand même trouvé que. À 34 ans, et surtout avec le nombre de blessures, surtout qu'il faut rappeler qu'en 2017-2018, il n'avait joué que 3 matchs.
Oui,
et que,
par exemple,
la saison dernière, il a joué 26. Et que, curieusement, en 2014, lorsque normalement il devrait remporter le Ballon d'Or, il n'avait joué que 32 matchs. Cette saison, il est à 34 matchs déjà. Enfin, la saison dernière, il est déjà à 33 matchs. Donc, moi, je peux dire que la façon dont il a eu à rebondir, et surtout... S'il a été l'homme clé du Bayern, même si Lewandowski a eu à marquer parfois, il faut savoir qu'il y a eu un grand apport de Müller, un grand apport de ses éléments, à des moments clés pour gagner le match.
Bon, mais le prix alors?
Moi, je donnerais à Neuer, mais malheureusement, c'est déjà voté.
Alejandro.
On va donner la parole aux auditeurs, peut-être un petit peu, en tout cas à l'un d'entre eux qui s'appelle Samy Santos, lui... Carrément, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il pense que Neuer non seulement est le meilleur gardien du monde, voire de tous les temps.
Ah, alors de tous les temps là, il faudra peut-être en discuter une autre jour dans une autre émission parce qu'il faudra avoir d'autres
plusieurs
paramètres.
Émissions, peut-être, pour
plusieurs émissions même. Mais bon, en tout cas du moment, c'est vrai qu'il marque les esprits et qu'il est le capitaine et bien de la meilleure équipe du monde à ce jour. Quant aux Andalous, Alejandro Valente, ils avaient ouvert le score. Alors comme vous le rappeliez tout à l'heure, ils ont quand même été durs à cuire et il y a eu des occasions, mais malheureusement le réalisme des grands joueurs ne les habitait pas. C'est quand même une équipe qui vient de se renforcer, notamment avec l'apport de Rakitic. On a Ocampos, on a Koundé qui pour l'instant est toujours là, le défenseur français qui est excellent. Il y a Jesús Navas qui est un peu comme Ibrahimovic, hein, Benjamin Button lui aussi. Est-ce que c'est pas une équipe...
Il y a Banegas qui est parti aussi. Ouais.
Est-ce que c'est pas une équipe qui, l'année prochaine, elle sera en Ligue des Champions? Elle a, malgré ses six Ligue Europa, est-ce que c'est pas l'heure de miser sur la Ligue des Champions et voire de s'attaquer un peu aux premières places de la Liga?
J'ai peur que la marche soit encore un peu haute pour Séville, qui n'a pas du tout les moyens qu'ont les grands d'Espagne, comme le Real ou Barcelone ou l'Atlético. Donc ça va être quand même assez compliqué. C'est une équipe qui fait un bon travail, qui avec ses moyens, essaye de faire au mieux. Mais je pense que c'est quand même une équipe qui n'a pas la stature ni l'effectif pour aller briller la Ligue des Champions ou même la Liga.
Mais qui est un chouette entraîneur, hein, Julien Lopetegui. Bon, en tout cas, ces deux équipes se retrouveront.
Qui était décrié il n'y a pas longtemps aussi, Lopetegui, dans notre club. C'est ça qui est fou. C'est terrible. Oui, d'un club
au
à l'autre.
Au Real, justement.
Ouais. Voilà. D'un club à l'autre, ça peut changer.
Il y avait des circonstances aussi très. Parce que là, on a regardé tout à l'heure, il a 27 victoires pour 6 défaites. Donc, ça marche bien.
Non, mais souvent, on entend cet entraîneur est mauvais, il est nul, il va chez un club, il a la réussite. Comme Unai Emery qui gagne 3 Ligue des Champions, enfin 3 Ligue Europa avec ce même Séville et qui arrive à Paris, on dit c'est un tocard. Ok, il va à Arsenal, il gagne des... Enfin,
D'ailleurs, le comparer même un petit peu à Hansi Flick par rapport à sa trajectoire. Un entraîneur qui arrive et qui change assez efficacement le visage de son équipe.
En tout cas, deux équipes qui se retrouveront évidemment dans leur championnat respectif au cours du week-end. Samedi, en fin d'après-midi, le Bayern Munich ira jouer à Hoffenheim, alors que le FC Séville ira, lui, à Cadiz. Et ça sera 24 heures plus tard.
Un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa.
Lionel Messi et Luis Suarez, la fin d'une belle histoire et d'un meilleur copain. Alors Lionel Messi, il se résout déjà à la contrainte de rester au Barça, mais par contre, il garde encore quelques flèches pour le président qu'il a forcé à rester. Et encore plus, se dit-il, lorsque ses complices partent un à un, et notamment son ami Luis Suarez qui est venu faire des adieux plein de larmes dans le vestiaire du FC Barcelone ces dernières heures. Résultat, il y a eu un post, comme on dit, sur un réseau social, Instagram, de Lionel Messi. Alors, plein de photos de lui avec le pistolero sur le terrain, dans le vestiaire, en famille, avec mari et femme, et enfants plutôt, respectifs. Mais il a écrit ceci sur tout Messi. Tu méritais, il parle à Suarez, qu'on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es, l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Et pas qu'on te vire comme ils l'ont fait, mais en vérité, au point où en sont les choses, plus rien ne me surprend. Alors, un message d'autant qui a eu beaucoup de répercussions, c'est que Neymar, l'ancien de la fameuse MSN, hein, Messi, Suarez, Neymar, a ajouté « incroyable comment ils s'y prennent ». Quel est le but de ce message, Alejandro? C'est un message de paix?
Oui, on peut ajouter même que Suarez a répondu il y a quelques minutes sur Instagram en disant « continue à prendre du plaisir, à prouver pourquoi tu es le numéro 1 ». Que deux, trois ou quatre personnes ne viennent assombrir les géants que tu es pour le club et pour le monde du football.
Voilà. C'est une fronde contre Bartomeu et la direction du Barça.
Voilà, disons que Messi, je pense que Messi, pour une fois, ce texte a été écrit par lui-même. C'est un texte qui est sorti du cœur. Et je pense que Messi est persuadé qu'en virant Suarez, la direction du Barça l'a visé lui. C'est-à-dire, personne n'ignorait au Barça l'amitié très forte qui existait entre les deux joueurs. Et il y a eu une volonté de casser un peu cette espèce de noyau dans les vestiaires afin de parce que peut-être ils estimaient que ça les isolait peut-être un petit peu du reste. En tout cas, il y a eu une volonté d'aller chercher Messi en virant Suarez. Il n'y a aucune raison sportive pour virer Suarez, même s'il est moins performant qu'il y a quelques années. C'est un des meilleurs attaquants au monde et il va sans doute réussir à l'Atlético. Donc s'il est parti, c'est parce qu'il fallait casser un peu sa société avec Messi. Et Messi est conscient de ça et ne le supporte pas.
Oui, son association avec Messi. Marc Libra, vous, comment vous voyez ce message? On pensait que, bon, une fois qu'il a dit qu'il respecterait son contrat jusqu'à la fin, il rentrait dans le rang, mais si, mais pas vraiment. Il joue au petit rebelle?
Non, mais je pense que c'est pas fini.
Il est vraiment blessé?
Oui, il peut être blessé. Après, où je suis surpris, c'est que quand on voit les dernières performances sur la dernière saison de Suarez, qui est blessé, qui a du mal, qui va vraiment à deux à l'heure, il rentre plutôt dans les plans pour être un joueur qui joue à Barcelone. Alors là, on explique qu'il va à l'Atlético, ça va être bien ce qu'il va faire, parce que là, il va devoir défendre, faire des efforts, et depuis bientôt un an et demi, il a de plus en plus de mal. Si Messi se rend pas compte que, ok, c'est son ami, il adore, mais le football est fait comme ça.
Oui, mais il avait encore deux ans de contrat.
Non, mais bien sûr, mais
c'est qu'ils disent, on avait un an de contrat tous les deux. Moi, on me dit, cette année, il faut absolument la faire, on ne peut pas ne pas la faire. Et Suarez, on lui dit exactement le contraire. Tu as une année de contrat, mais il faut que tu partes sans indemnité, sans rien. Donc c'est quelque chose qu'ils ont vécu comme une contrainte très violente et un double discours qu'ils n'ont pas supporté. Parce que Suarez avait accepté l'idée de ne pas être titulaire. Il ne revendiquait pas le poste de titulaire.
Rémi, pourquoi le Barça s'en prend à Suarez et pourquoi finalement veut atteindre Messi indirectement? Et c'est à noter que c'est pas le seul. En plus de son entourage, et Arturo Vidal qui est parti, sans compter tous ceux qui ont quitté le Barça. On pense à Arturo le Brésilien, on pense aussi à Rakitic, qui sont les piliers un peu de cette équipe autour de Messi.
Mais attendez. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens devraient pleurer. C'est vrai que les statistiques de Suarez sont intéressantes. Troisième meilleur buteur du Barça, oui, avec 198...
Est-ce que vous pensez que c'est pour atteindre Messi ou pas? C'est ça, on connaît la valeur de Suarez, on en a beaucoup parlé hier.
Bon, attendez, je vais vous dire. Atteindre Messi comment? Puisque c'est Messi qui, justement, atteint les autres depuis des décennies. Je devrais quand même vous dire que pour que Messi s'installe, il a fallu virer un joueur qui était supérieur à Suarez, c'est-à-dire Samuel Eto'o. N'oubliez pas quand même que... Oui, n'oubliez pas quand même que ce Messi-là, il a regardé Zlatan comme ça, il a vu tout haut.
Samuel Eto'o et Messi sont très bons amis.
Non, je ne veux pas de celui-là. Mais attendez, Samuel Eto'o a été viré par Pep Guardiola qui voulait installer Messi. N'oubliez pas que Messi...
C'était un choix.
Attendez, n'oubliez pas que l'Espagne sort avec un David Villa qui est un très grand attaquant, l'attaquant d'Espagne. Et puis Messi dit, je ne veux pas de cet attaquant. Il a fait virer David Villa. N'oubliez pas. Attendez, parce que...
Rémi, moi je voudrais qu'on reste sur l'histoire du message. Est-ce que c'est contre la direction et pourquoi?
Non. J'ai dit bien, le Barça a ce problème depuis. Ce n'est pas seulement pour Messi. C'est comme ça qu'il procède. Il faut savoir que même quand ils ont fait partir, par exemple, Fabregas, en 2013-2014, il sort de la Liga étant meilleur passeur. Et on se débarrasse de lui. Même comme je vous dis, David Villa part quand il est le meilleur buteur du Barça avec 26 buts.
C'est Messi ça, sont des super potes.
Je vous dis donc que ce n'est pas seulement Messi, c'est que le Barça ne sait pas recruter ni préserver des joueurs. C'est une série de choses que en train de vous dire.
Rémi, là, on parle du message. Qui dirigeait ce message et pourquoi?
C'est Messi qui
dirige. S'il rallume la dispute qu'il a avec la direction.
Sachez une chose, Annie. Sachez que le Barça a décidé de se reconstruire. Et pour se reconstruire...
On va en parler.
Et pour se reconstruire, je crois qu'on ne va pas reconstruire c'est
avec les mêmes.
Avec les mêmes. C'est pour ça que on a choisi cet entraîneur-là. Donc, à une certaine période, d'ailleurs, Ibra vient de le souligner. Suarez, certes, a eu à marquer 16 buts, mais il n'avançait plus. Et oui, aujourd'hui, on veut par exemple donner de la place à Griezmann.
Mais on parle pas de Suarez et de la valeur de Suarez. L'histoire, c'était le message de Messi. Est-ce qu'il rallume la flamme?
Alors, moi, j'ai... bien évidemment. Il met les sardines. il brûle la maison. Ben, et comme dit un proverbe africain, quand on met le feu, on récolte uniquement les cendres.
C'est justement alors, pour ça qu'il va falloir que Messi soit bon. Parce que là, tout le monde va l'attendre au tournant, quoi qu'il arrive. Automatiquement. Parce que de balancer ce genre de choses, ok, je le veux bien, il est capable, mais non, il faut les faire gagner, il faut les faire passer en Ligue des Champions, il faut les faire avancer. Donc c'est là où on l'attend vraiment.
Et aller haut dans la Ligue des Champions. Alejandro, dans cette ambiance un peu explosive, alors on a Ronald Koeman, hein, le Batave, comme on le surnomme, il paraît qu'il est surnommé Rambo d'ailleurs depuis assez longtemps. Il est arrivé, on dirait, avec un fouet pour redresser cette équipe. Alors il a dégraissé l'effectif. Comment va-t-il finalement ramener la sérénité entre Messi et les autres? Et finalement faire avancer ce vestiaire où il a encore pas mal de il a quand même de bons éléments, on va dire, hein, parce qu'il y a évidemment les anciens Piqué, Busquets, Jordi Alba, et mais il y a aussi Griezmann et puis il y a De Jong,
les jeunes qui viennent d'arriver, il y a Dembélé qui va peut-être
comment il va s'y prendre, il va changer le style de jeu,
je pense que d'abord Messi a eu l'intelligence et le soin de ne pas mêler Koeman à tout ça, c'est-à-dire ce qu'il vise c'est la direction du Barça, une direction finissante qui est en difficulté puisqu'il y a une motion de défiance qui est en cours contre elle et qui pourrait l'obliger à quitter le navire même avant les élections prévues au mois de mars. Mais il ne s'en est pas pris à Koeman. Donc avec Koeman, ça se passe bien. À l'entraînement, ça se passe...
On dit que leur premier contact, c'était pas très bien passé.
Bah forcément, parce que Messi voulait partir. Donc le premier contact a été un peu froid. Depuis, ils se sont beaucoup parlé. Koeman, de son côté, était tout à fait disposé à garder Suarez. Donc c'est une décision de la direction que Suarez s'en aille. Messi le sait. Et Messi a tout à fait l'intention de réussir cette année, qui va commencer pour Barcelone dimanche avec un match face à Villarreal. D'ailleurs, dans les matchs amicaux, on a vu un Messi extrêmement bien concentré, qui a marqué des buts, qui a donné des buts. Enfin, le Messi habituel qu'on voit tout le temps et qu'on admire tant.
Rémi, est-ce qu'on est reparti pour un mano à mano dans cette saison entre Real et Barça, selon vous?
Possible, mais pour l'instant, je crois quand même qu'il faut laisser un peu le temps à Koeman de reconstruire.
Oui, ils n'ont pas commencé le championnat, rappelons-le. Le Barça, ils commenceront ce week-end à domicile en recevant Villarreal.
Mais sachez que moi, je sais qu'il va faire un très, très grand travail parce que c'est quand même l'un des adeptes fidèles de...
Oui, il est légitime.
Donc, il faut savoir aussi que... Quand vous regardez le ménage qu'il est en train de faire, ça montre exactement le ménage qui a été fait par Johan Cruyff en 1988, quand il revient. Quand il revient, il balaie la maison et il réinstalle en prenant certains joueurs. Bien évidemment, il va aussi prendre les gens de la cantera, tels que d'ailleurs Pep Guardiola qui était là, tels que... voilà, il va prendre trois. Mais sauf que l'avantage qu'avait eu Cruyff, et que je doute auprès de Koeman, c'est que lui, il est parti trouver des grands joueurs à l'étranger, dont Romario. Il y avait Romario, il y avait Lodru, et surtout, il y avait Stejkov. Donc, c'était des joueurs, et au-delà de ça, on avait aussi quand même des gens qui avaient déjà une certaine expérience, comme Zubizarreta. Maintenant, celui qui est beaucoup plus expérimenté, je vois qu'à part Messi, c'est peut-être Piqué qui est vieillissant, qui est presque au déclin. Comment est-ce qu'il va faire?
Ça peut être une bonne préparation, une année de transition, parce
que justement aussi, ce Barça de l'époque de Cruyff a quand même eu à enchaîner par la suite 4 Ligas. Donc moi, je me dis bien, ce Barça n'est pas fini, ce Barça est en train de très bien se reconstruire.
Quand on est le Barça, on a le temps de la transition, mais même quand c'est Koeman.
C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de transition possible. En période électorale, où peut-être ça peut sauter avant, il est hors de question. Et puis Messi, n'oubliez pas que normalement, il est libre en fin d'année, c'est ça?
Donc
normalement, à partir du mois de décembre et janvier, on peut apprendre que Messi peut partir ailleurs ou qu'il a signé ailleurs. Donc ça va être très compliqué. Mais non, je suis Koeman, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je construis autour de Messi. Je vais pas dire, ah ben attendez, je vais bien réfléchir, je vais mettre Griezmann en rôle de 9,5 parce que c'est là qu'il est le meilleur, et Messi, je vais te mettre devant ou sur un côté. Ben, il va devoir faire avec, je suppose que...
Mission difficile.
Comment ?
Mission difficile.
Mais non, c'est pas difficile, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il faut juste associer maintenant les joueurs. Ah, mais de composer. Il y a Messi qui est le numéro un, c'est Messi qui est placé. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Griezmann? Son meilleur poste, c'est en 9,5. Mais c'est la place de Messi. Ah mince, alors pourquoi ils l'ont acheté? Ben, comment? Moi, j'étais pas là quand ils l'ont acheté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur un côté, on le met pas sur un côté. Ok, là, il nous dit, Memphis doit arriver. Mais Memphis, pourquoi faire? Enfin, il prend Memphis au Barça.
On n'est pas sûr qu'il arrive.
Ouais, on n'est pas sûr, mais on entend parler. Coman dit, j'aimerais voir Memphis arriver.
Ils sont Brad White. Ils sont Brad White.
Non, mais c'est un joueur intéressant. Non, mais chaque fois, il se bouge tout le temps. Donc, aujourd'hui, Coman, la seule chose qu'il doit faire, c'est dire, OK, j'ai Messi, ben maintenant, il faut que je construise autour. Et il pourra pas dire, parce que s'il perd deux ou trois matchs, ça va comment? De suite, ça va partir dans tous les sens, en sachant qu'il y a une direction qui, soi-disant, n'est pas correcte aux yeux de tout le monde. C'est ce que Messi fait passer, quoi qu'il arrive.
Légitime.
Il faut pas oublier une chose, le gros problème du Barça, et c'est là que Coman, on l'attend toujours, c'est reconstruire une défense qui tienne vraiment la maison.
Et deux défensifs.
Parce que Barcelone, même l'année dernière, marquait beaucoup de buts. Le problème, c'est qu'il en prenait beaucoup. Donc aujourd'hui, et Coman, qui est un défenseur, connaît quand même très bien cet aspect-là. Et je pense que c'est un aspect auquel il consacre beaucoup d'énergie. Un petit message simplement d'un de nos amis qui nous suivent sur Facebook, Ali Baba Junior, qui dit, à ce rythme-là, je crois que bientôt plus personne ne voudra regarder le championnat espagnol. J'espère qu'il se trompe.
Non, on verra bien. En tout cas, nous, on le suit dans Radio Foot et on continuera à vous en parler. On continue et on va dans le sud de la France.
Botafogo comme Garincha. Je sens la ferveur des supporters quand ça crie au sang. J'ai le cœur bleu et blanc, mon équipe est honorable. Le cœur bleu et blanc, mon équipe est honorable. Numéro 7, Botafogo comme Garincha. Déjà plus de 120 ans qu'on est là. Tous au stade, ce soir on joue à la maison.
Luis Enrique, il a déjà sa chanson où on entend, hein, vous avez peut-être capté au départ de cet enregistrement, qui est un joli clip si vous nous regardez. Marseille, c'est chaud comme Rio de Janeiro. Vous confirmez?
Mais c'est logique.
Ça a deux sens en plus, le chaud, parce qu'évidemment, autant l'ambiance.
C'est tout à fait logique. On ne s'enflamme pas à Marseille, il n'y a aucun problème. Je valide.
En tout cas, sera-t-il le futur chouchou du Vélodrome? Il est arrivé jeudi, il a passé sa visite médicale et vendredi, il a donc signé son contrat, le Brésilien Luis Enrique, qui est donc la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Il arrive du grand club de Rio de Janeiro, qui est le club de Botafogo. Le propriétaire de l'équipe, l'Américain Frank McCourt, s'est félicité de l'arrivée donc d'un important talent brésilien. Ce n'est pas encore le grand attaquant, Marc, ouais, d'abord il fait 1m81, il n'a surtout que 18 ans, il arrive du nord-est d'ailleurs du Brésil, cette fameuse région du nord de João Pessoa, la ville de Paraíba. Où jouera-t-il dans l'effectif? André Villas-Boas a évidemment déjà son idée.
Il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au football brésilien et on va travailler sur lui. C'est du talent pour, capacité de dribble, de tirer, il a... une carte dans des petits espaces qui est étonnant. Après, toutes choses à travailler. Mais oui, c'est un talent pour l'attaque.
Avance au Botafogo. Grande ultrapassagem de Luis Enrique. Que belo gol!
Bon, même s'il marque des buts, on n'entendra pas ça dans les radios ou télévisions françaises, ce goal. André Villas-Boas parle de talent pur. Vous confirmez, Marc?
Ah, je ne sais pas. La plupart des gens ne le connaissent pas. Je crois que l'indemnité de transfert, c'est quoi? On lit 1,5 million.
Non, c'est 12 millions.
12 millions et demi, d'accord. C'est peut-être passé à travers les radars, puisqu'on découvre un jeune de 18 ans. Villas-Boas explique aussi que le football brésilien n'est absolument pas comme le football européen, qui est totalement différent, donc il va devoir s'adapter. Mais non, c'est un pari, c'est juste un pari sur un jeune. Marseille, voilà, il y a un CD, ils sont capables de s'enflammer. Rappelez-vous quand Didier Drogba part, on fait venir Peggy Yundula. Après trois matchs, il marque pas, ils l'ont fusillé, quoi. Donc attention de pas. C'est un gamin qui est sûrement talentueux, je n'en doute pas, mais il va arriver dans un contexte où Marseille ne gagne pas depuis deux matchs. Alors ils ont battu Paris, mais ils gagnent pas depuis deux matchs. Et tout le monde attend le vrai neuf. Et quand on se renseigne un peu sur lui, c'est un joueur de côté.
Non, il est polyvalent, paraît-il.
Ah mais moi j'étais polyvalent aussi. Non mais c'est...
Ça me fait rire, j'adore. Moi aussi, j'étais polyvalent.
Ça veut dire quoi alors, Marc, mais polyvalent non, ça veut rien dire.
Est-ce que c'est un vrai neuf? Aujourd'hui, il faut un neuf à l'OM. Puisque
c'est,
et c'est pas un vrai neuf. Donc, on nous prend quelqu'un de côté. Ben, de côté, il y en a. Et les selles neufs, on va dire, on a le jeune Aké qui a toujours manqué une occasion, qui a pareil, qui a été formé au centre, qui a... Mais j'ai l'impression qu'on on accumule les joueurs et ça va être difficile pour ce jeune qui arrive à Marseille.
Est-ce qu'un entraîneur, devant un jeune garçon de 18 ans doué, qu'il dit être polyvalent, est-ce qu'il peut le transformer en numéro 9?
Il peut, mais...
Il peut évoluer?
Moi, j'ai commencé à 14 ans, 15 ans à Marseille, en étant 9 et demi. C'est-à-dire qu'il y a un 9, Marc, tu tournes autour. Et tu vas, pendant 5 ans de ta formation, tu vas apprendre à tourner autour de lui. Je ne sais pas la formation qu'est le jeune joueur, mais la plupart des gens ou les retours qu'on a, c'est un joueur de côté. Donc, c'est qu'il a été formé pour être un joueur de côté. Un joueur des renards des surfaces, c'est très aigué. Le joueur, il fait entre 20 et 30 mètres par quart d'heure, mais il bouge pas. Et il attend. Un des Lyonis, pour les plus anciens, c'est un Bafétí Gomis qui fait plus d'efforts, mais Bafétí, il attend. Mais là, je ne sais pas si ce gamin-là va être capable de rester dans les 30 derniers mètres et d'attendre les ballons, parce que les ballons, ils arrivent. Que ce soit Thauvin, que ce soit Payet. Est-ce que c'est ce joueur-là, ce profil-là? Marseille a besoin de ça. Je pense pas que ça peut être ce profil-là. Par contre, c'est peut-être un jeune qui est intéressant. Mais attention de pas lui tirer très vite dessus, parce que tout le monde va attendre là. Ça y est, il s'enflamme. Il parle de Garrincha. Ça y est. Enfin, il faut aller doucement. On aime
la
bien s'enflammer en Marseille.
Avec Garrincha, oui, hein.
Mais il faut aller doucement, parce que 18 aussi, ans, ou... il va découvrir. Et puis, il arrive dans un contexte où, dans le stade, il y a 1000 personnes. Hein, il y a personne. Hein. Donc, est totalement différent.
Garrincha, pour les plus anciens, était compagnon de
oui, bien sûr,
Pelé dans les années 50. Hein. Donc, il a joué à Botafogo toute sa carrière.
Il n'y a plus Johan Pelé.
Très, très grand dribbleur.
Oui, un merveilleux joueur, mais ça commence à dater. Rémi, est-ce que pour vous, c'est un bon pari, pour, on va dire, pour l'OM?
Ce n'est pas un bon pari parce que à
Paris. Ou alors est-ce qu'ils avaient besoin de quelqu'un en urgence?
À Paris, non, non. Vous savez, les paris, même à Paris, ne marchent pas avec les jeunes Brésiliens là. Parce que le dernier, c'était Lucas. On m'a dit qu'il était.
Lucas,
on
celui
a dit.
Qui est maintenant à Tottenham?
Ah oui, on m'a dit qu'il allait totalement réussir. Mais on a vu qu'il a eu beaucoup de peine. Donc, moi, je sais que avec le football brésilien, lorsqu'on vient directement comme ça là, et surtout, l'hiver va aussi arriver. Ce sera un peu difficile pour lui. Et justement, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'Aké? C'est comme ça que Paris, lui également, avait raté avec Coman. C'est-à-dire que vous avez un jeune que vous ne voulez pas, à qui vous ne voulez pas donner de la chance, et vous partez prendre quelqu'un de côté. Justement, aujourd'hui, peut-être il fallait aller reprendre Gignac pour que ça donne quelque chose. Parce que là où Brandao, mais celui-là. Mais franchement, non, Marseille a ce problème d'avant-centre depuis et ils ne parviennent pas à le résoudre. Donc finalement, quand on va prendre ce jeune-là, ce n'est pas lui qu'il fallait à Marseille à l'instant. Il fallait un renard de surface. Il n'a rien à voir avec un renard de surface. Écoutez ce que l'entraîneur dit. Que oui, c'est un bon dribbleur. Donc on a besoin d'un bon dribbleur pour être un attaquant de surface. C'est pas ça.
Alejandro, c'était la quatrième recrue de l'OM cette saison, le dernier, disent-ils. Est-ce que, quand même, malgré tout, l'OM a plutôt bien recruté?
Il a beaucoup recruté des jeunes, hein, parce qu'il y a Balerdi aussi. Il y a beaucoup de paris dans ce recrutement et peu de certitudes.
Et quand peu même, de dépenses, parce que c'était effectivement le but aussi de Marseille.
Si on va sur le site de l'équipe, on nous dit qu'Enrique a disputé 21 matchs chez les pros. Ok, mais parmi ces matchs, la plupart, c'est des matchs amicaux. Il a joué que 7 matchs en première division. 7 matchs. C'est rien.
Le championnat a été arrêté en plus, il y a un appel de reprendre.
Absolument, donc c'est un énorme risque. C'est vrai que c'est un joueur séduisant. On dit Garrincha, on peut comparer peut-être à Neymar qui est une référence plus proche. Et c'est avec un physique quand même plus imposant. C'est un joueur qui peut avoir un potentiel, qui peut éventuellement réussir, mais c'est pas du tout un avant-centre. Et c'est pas du tout un joueur confirmé qui peut offrir une certitude dans le football européen.
Et oui, pour l'instant, en tout cas, grand point d'interrogation sur ce joueur, même si, évidemment, il y a beaucoup de d'enthousiasme autour de son arrivée. Et aussi, au Brésil, c'est vrai que du côté de Botafogo, on croyait tenir une pépite. Ouais. Mais malheureusement, on l'a déjà cédé. Il y avait aussi des rumeurs autour d'une certaine maladie, hein, d'une pubalgie. Ouais. Bon, apparemment, il a passé les tests de santé sans trop de problèmes. L'OM recevra en tout cas, alors évidemment il ne sera pas encore sur la pelouse, reçoit le FC Metz samedi soir au stade Vélodrome et L'OM aimerait bien qu'il y ait du public, comme on leur avait promis que cette saison, et notamment c'était le grand rêve du président de la Fédération française, Noël Le Graët, il y aurait du public. Malheureusement, le contexte sanitaire est ce qu'il est, ça sera vraisemblablement à huis clos. Les Fonceyens avaient demandé une possibilité d'avoir du public, mais c'est mal parti. Et ils ont, semble-t-il, eh bien, la nostalgie des stades pleins. N'est-ce pas, ça c'est Dépêche Mode et c'est la musique qu'utilise le Stade de Rennes pour rentrer, Stade Rennais pour rentrer la rentrée des joueurs sur la pelouse. Alors ce n'est pas l'hymne, hein, Jump de Marseille ou Van Halen et celui des Parisiens qui ont aussi le leur. Rémi, cette menace de huis clos sur la France, sur les stades français, on voit, on regarde tous hein, les cartes sanitaires en ce moment, on voit comment ça se passe. L'autre jour, pour le début de la Bundesliga, le Bayern Munich espérait avoir du monde. Finalement, ils ont dû eux aussi jouer à huis clos. Alors on a vu hier, on était un peu content de voir qu'il y avait 16 000 personnes dans le stade pour la Super Coupe d'Europe. Hein. Hier, il y avait des supporters des deux clans. Est-ce qu'on va vivre une année bizarre, selon vous, une année ? Est-ce qu'il faut s'y préparer déjà ? Et peut-être sans doute les clubs aussi.
Il faut s'y préparer, mais également aussi, il faut se dire que la science ou alors les recherches médicales nous donnent quand même une certaine lueur d'espoir.
Je parle juste de cette saison qui arrive. Donc, je ne me projette pas dans l'avenir.
Saison, malheureusement, devrait être difficile parce qu'on nous promet les vaccins uniquement à partir peut-être de février 2021. Ce n'est pas encore évident. Donc, une chose est sûre, c'est que les clubs devraient vraiment apprendre à vivre avec ce virus-là, avec
sans
ce
billetterie.
Virus. Voilà, sans billetterie. Bon, une chance aussi.
Mais ça change le football pour vous, Rémi ? Quand vous regardez un match, est-ce que ça change ?
Oui, ça change. Ça change parce que parfois, on n'a pas cette ambiance, ces cris.
Alors, à la télé, on les a, mais c'est fictif.
Oui, mais en même temps aussi... Lorsqu'on a quand même essayé de regarder la Ligue des Champions et l'engagement qu'il y avait, et même quand on voit certains matchs encore, on se dit quand même que le football, même parfois sans public, ça peut passer. On est en train d'apprendre à vivre avec. Bon, en tout cas, il y a un proverbe africain qui dit également aussi que un bon cheval n'a pas besoin de fouet pour gagner la course.
Alejandro, pour ce qui est des matchs de Ligue des Champions et des matchs européens d'une façon générale, l'UEFA et son président Seferin, pour l'instant, ils restent prudents, ils attendent.
Pour l'instant, si on va sur le site de l'UEFA, on voit que c'est des matchs à huis clos. C'est la
le test d'hier soir était voilà. Intéressant.
C'était un test, donc ils vont l'analyser. Et Seferin dit que c'est compliqué parce qu'en Europe, il y a plusieurs systèmes. Il y a des pays qui n'ont aucune limitation. Il y a des pays qui travaillent sur des pourcentages des supporters dans les stades par rapport à la capacité totale. C'est le cas de l'Italie qui va retrouver ce système à partir du mois d'octobre, ou l'Allemagne. Et il y a des pays comme la France qui font des jauges. Et puis il y a des pays qui interdisent totalement la venue des supporters, comme l'Espagne ou l'Angleterre. Donc ils disent que c'est difficile de faire une synthèse. Comment expliquer dans un pays qui accueille des spectateurs que tout d'un coup les matchs de Ligue des Champions doivent se jouer à huis clos ou inversement. Donc c'est la difficulté. Je pense qu'ils réfléchissent intensément et j'espère qu'on va trouver une solution raisonnable, peut-être en fonction des pays, acceptés ou pas des spectateurs.
Marc Libra, vous qui êtes un ancien joueur, vous qui avez été dans des stades en délire.
Et à huis clos aussi, trois fois.
À huis clos aussi, mais qui avez connu des ambiances chaudes dans ces stades, chaleureuses aussi. Comment vous regardez ce football en ce moment ?
Pour être très franc, ça m'ennuie fortement. C'est-à-dire que la plupart du temps, je mets même plus le son, je coupe. Parce que je trouve
d'abord,
que c'est...
D'abord, le faux son, ça vous plaît pas ?
Le faux son, c'est rigolo, mais bon, c'est très bien fait, attention. Hein.
À Marseille, ils ont même fait ça l'autre jour, où les joueurs pouvaient l'entendre.
Je trouve ça, et puis on va se rendre compte que certaines équipes peuvent avoir ce fameux 12e homme qui peut les pousser à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut que les joueurs aujourd'hui soient encore plus costauds, parce que on peut être dans une phase où on prend un but, il reste un quart d'heure. Là, le public va vous aider, va vous pousser, va vous remotiver, parce que ça compte énormément.
Vous vous rendez compte, par exemple, PSG-OM, pour vous, ça a changé la nature du classique ?
Ah, complètement. Ah oui. Puis on prend l'exemple de certains matchs, parce que moi je regarde beaucoup l'Angleterre. Sur l'Angleterre, il se passe rien. On voit les matchs, c'est d'une tristesse.
Et le public anglais,
et quand on sait ce qui peut se passer, que ça pousse énormément, quand on voit Liverpool, et là il se passe rien, c'est d'une tristesse. Mais de toute façon, faudra bien se dire ce qu'on a vécu avec la Ligue des Champions, ce fan hate, tout ça, tout ce qui se passe. On va vivre une saison très compliquée. On n'est même pas sûr que ça s'arrête à un moment donné. Donc faire attention.
On verra ça et on suivra ça, bien sûr, dans Radio Foot International. C'est notre session carton. Vous êtes prêts, Rémi, j'espère. Non, attendez, il y a le générique.
Carton jaune.
Un carton, là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Alors Rémi Ngono, quelle est la couleur de votre carton aujourd'hui ? Me dites pas rouge.
Le carton sera malheureusement rouge.
Toutes les semaines il est rouge. Nos auditeurs le savent.
Raisons, c'est pas moi qui le donne, c'est ce coup d'anzier qu'on est de ma page Facebook Rémi Ngono officiel qui a décidé de donner un carton rouge donc au dirigeant du Djoliba FC de Bamako qui à peine sorti de la crise. Eh bien le football malien risque encore d'être pris en otage toujours par les mêmes. Donc finalement le football malien n'avance pas parce que les dirigeants commettent toujours les mêmes erreurs et finalement, ce sont les joueurs qui en pâtissent, c'est les petits clubs qui en pâtissent, comme le dit malheureusement un proverbe africain, quand les gorilles bagarrent, ce sont les petits singes qui ont le dos brisé.
Il vous a plu celui-là, ouais, Alejandro. Donc, c'était un carton malien. Alejandro.
Moi, j'ai la Bessasse pleine des cartons verts de nos auditeurs qui donnent à cœur joie. Lewandowski, Neuer, Luis Suarez, Edouard Mendy, Kingsley Coman, tout le monde a droit Mendy, à son carton.
Je pense à Mendy, moi.
Ils ont bien écouté Radio Foot cette semaine. En
absolument.
Tout cas.
Et moi, je peux en ajouter un pour la Fédération de football des Sierra Leone, qui a décidé d'être la première fédération africaine à prôner l'égalité salariale en équipe nationale entre les hommes et les femmes. Et ils le font même rétroactivement, ce qui fait que les joueuses de l'équipe nationale ont reçu chacune, pour leur participation à la Coupe UEFA, $2000, une vraie fortune pour elles qui sont vraiment heureuses de cette initiative.
Marc Libra, votre carton.
Carton rouge à Nasser El Khelaifi, qui a été suspendu, il risque de suspension.
Pour l'instant, requis 28 mois de prison.
Ouais, 28 mois de prison et tout. Et puis, je trouve que cette information qui, pour moi, est très importante est passée juste comme ça. Donc, c'est assez, je me rappelle d'une époque où des présidents avaient été incriminés ou mis en avant. On faisait les gros titres, les grandes pages. Et là, je trouve qu'on n'en parle pas.
Donc, c'est au niveau de la FIFA. C'est au niveau de la FIFA.
Ouais, mais c'est quand même très important.
On soupçonne, effectivement.
Surtout, il faut qu'on nous donne l'adresse de sa prison. Qu'on lui apporte de temps en temps un peu de pain, un peu de.
C'est important.
Il n'y est pas encore.
Un peu de pomme.
Voilà. Il n'y est pas encore.
Voilà.
Radio Foot International met un carton rouge, ou plutôt rose, disait Alice Ménard tout à l'heure, au club du FC Emmen des Pays-Bas. Ils ont choisi pour sponsor, un sponsor très particulier, qu'on dit un sponsor coquin, une société de sex toys. Alors, au départ, la fédération néerlandaise a refusé. C'était un contrat de 3 ans. Résultat, la boutique, il y avait tellement de monde dans la boutique du club que tout le monde voulait son maillot avec le sponsor coquin. Et donc, le maillot rouge et blanc portera le nom du sponsor de cette société de sextoy, mais seulement pendant 1 an. Voilà. Ne courez pas acheter ce genre de t-shirt tout de suite ou d'objet. En tout cas, je vous donnerai pas le nom de la société ici. C'est un sponsor néerlandais.
Voilà, parce que sinon vous risquez d'être crypté, hein, comment.
Ça risque. Mais pas aux Pays-Bas, apparemment. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé aujourd'hui. Merci aussi à Alice Ménard, qui était à la réalisation. Il y avait Swell Kedir à la réalisation vidéo avec Leonardo. Et puis, je remercie aussi, évidemment, Pierre Guérin et David Finzel, qui m'ont aidé à préparer l'émission. Et on vous dit à lundi la semaine prochaine. We'll be right back.